Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Isabelle Milleret, bonjour.
Bonjour.
Et de Gérard Loup, qui l'accompagne.
Bonjour.
Bonjour. Alors Isabelle, vous êtes au studio de Erdiwa pour nous annoncer une exposition que vous donnez à l'ancien monastère de Sainte-Croix, près de Die, et qui a commencé depuis le 3 août jusqu'au 22, et avec des ouvertures entre 10 et 19 heures. Vous serez présente d'ailleurs à cette exposition à partir de vendredi 9, où vous pourrez recevoir vous-même les visiteurs de cette exposition. Et là, donc, vous proposez entre sculpture et gravure.
Voilà, je suis sculpteur sur pierre depuis 25 ans environ, même un peu plus. Et je fais de la gravure depuis 5-6 ans maintenant. J'ai commencé d'ailleurs les beaux-arts il y a longtemps en gravure, mais je me suis tout de suite dirigée vers la sculpture. J'ai fait beaucoup de modelage, moulage, d'anatomie. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers la pierre. Et là, ça a été un coup de foudre qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Donc je propose dans cette exposition à l'ancien monastère, on va dire une quinzaine de sculptures. Beaucoup en marbre, en ardoise, en albâtre, et une série d'une vingtaine de gravures, gravures pointe sèche. Donc c'est une technique où sur des plaques en zinc ou en cuivre, on grave et puis après avec de l'encre, on fait une impression papier tirée à 30 exemplaires. Voilà pour une première présentation. Ensuite, ce que je trouve très intéressant, c'est que si les gens sont là, je vais pouvoir leur parler un peu de la technique de la sculpture. Donc, la sculpture sur pierre, c'est d'ailleurs comme le bois, mais complètement différent du modelage. C'est-à-dire que quand on a un bloc de cailloux, tout est dedans. Voilà, il y avait la fameuse histoire où on racontait, oui, l'éléphant est dans la pierre et on a juste enlevé ce qui était autour. Voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup parce que je trouve que voilà, c'est un peu comme dans la vie, on va toujours de l'avant. Quand on a trop enlevé, il faut changer d'avis et se remettre, s'adapter et aller de l'avant, oui, aller de l'avant pour obtenir quelque chose de parlant, de sensible. Et si possible, d'esthétiquement beau, oui, parce que j'aime bien la notion du beau qui est un peu, comment dire, remise en doute à l'heure actuelle. Je parlais de l'esthétique parce que c'est vrai que j'aime qu'on puisse toucher mes pierres. Moi, j'ai fait un travail donc, d'abstraction, mais ma source d'inspiration principale, c'est la nature, les formes de la nature, la vie dans la nature, les impulsions, les rythmes, les cassures, les fêlures, beaucoup minérales forcément. Je suis une amoureuse de la montagne et ça se retrouve, je pense, dans mon travail où je joue avec des plis et des envols et de grandes surfaces polies. Parce que justement, j'aime qu'on touche la matière pierre qui, dans mes sculptures, est douce. Je travaille donc avec des disqueuses, avec un compresseur. Je polis, par contre, tout le travail de polissage est à la main. Et ce qui me permet d'avoir un rendu très lisse et ce qui permet aussi, c'est d'avoir les couleurs naturelles de la pierre. Parce que le ponçage est abouti et je termine avec une pâte à polir. Donc voilà, ça c'est le côté un peu technique. Mais ce qui permet d'expliquer que c'est un long travail et voilà, où la pierre, à mon avis, est vraiment mise en valeur dans toute sa splendeur, sa texture et sa vibration. parce que oui, c'est vrai, c'est question de vibration aussi. Quand les gens acquièrent une sculpture, je dis souvent, ils ont quelque chose de vivant. Pour moi, la pierre, elle est vivante et elle est connectée à toute la nature. Ça veut dire que, comme chaque être humain d'ailleurs, on est tous connectés, on appartient au règne de la nature. Et c'est une connexion vivante, un rappel au fait qu'on appartient au règne de la nature, que la nature ne nous appartient pas. Et mes pierres, j'essaye en tout cas, à chaque fois, c'est une aventure nouvelle, chaque sculpture est une aventure nouvelle, et j'essaye vraiment qu'elle soit parlante, vibrante, et qu'elle soit vraiment une connexion avec une certaine vibration qui nous rappelle la fragilité et en même temps la puissance des forces dans la nature. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est très fort pour moi et ce que j'essaye d'exprimer. Alors je parle de mes sculptures, mais dans mes gravures également, parce que elles sont ce sont des paysages minéraux qui tirent plus ou moins vers l'abstraction, mais où vraiment la vibration nature est toujours très présente. Voilà, avec beaucoup de rythmique, un travail très graphique, où je reprends ce que j'appelle les mouvements de la Terre, les mouvements telluriques, les mouvements profonds de la pierre, du minéral, de la nature.
Isabelle, vous parliez tout à l'heure d'abstraction, hein, c'est votre principal mode d'expression. Vous retirez donc d'un bloc, d'un minéral, une figure, une dynamique. Est-ce que vous pensez que, par exemple, le figuratif est, dans ce contexte ou dans cette manière de travailler, ne serait pas aussi une abstraction ?
Ah, ça, c'est un large débat. Mais oui, bien sûr, la figuration est aussi dans une abstraction. Mais c'est comme si, en tout cas dans mon travail, c'est comme si souvent les gens, quand ils voient des œuvres, d'ailleurs les enfants, je viens d'accueillir des enfants, ils ont besoin d'une représentation de quelque chose. Et en fait, pour moi, après, c'est vraiment mon propre travail. J'ai l'impression que ça rétrécit trop pour moi mon champ de recherche. J'ai vraiment envie d'avoir le plus possible, une recherche vers quelque chose d'abstrait et on va dire libre de toute représentation figurative. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'acte de création aujourd'hui est un acte vraiment... On est créateur de nos vies, ça c'est mes propres pensées. Moi je suis créateur de mes sculptures, mais je pense que chaque être humain est créateur de sa vie. Et que créateur, ça veut dire aussi se faire confiance. Et se faire confiance, ça veut dire aussi partir dans l'inconnu. Et pour moi, c'est vraiment juste pour moi, non pas pour mettre à part la figuration, dire que c'est moins bien, mieux, non, c'est juste différent. Mais pour moi, dans mon chemin, j'ai besoin de cette abstraction. Ceci dit, dans mes sculptures, il y a toujours, on ne s'échappe jamais vraiment de la figuration. Il y a toujours des suggestions d'envol, des suggestions de flammes, des suggestions de... je sais pas, de cathédrale, de porte, parce que par exemple, j'ai fait une ardoise noire, les gens me disent, oui, c'est comme une porte, un passage, où il y a certaines sculptures en marbre d'Espagne qui sont un peu comme des oiseaux, des envols, donc il y a forcément toujours un rappel à quelque chose de figuratif. Mais ce n'est pas vraiment fidèle aux proportions du figuratif.
Qu'est-ce qui vous a inspiré dès le départ dans la sculpture ? C'est le fait de donner un rendu pour le toucher, avant tout ? Ou alors, est-ce que vous avez vu des œuvres, des sculptures qui vous ont vraiment fasciné dans la manière de les toucher ? Est-ce que ça vous a beaucoup influencé, ce type de,
oui.
De sensations ?
Disons que j'ai fait donc les Beaux-Arts il y a longtemps, là où j'étais rentrée en gravure d'ailleurs, mais
C'était quelle école ?
C'était l'école des Beaux-Arts de Genève, les SAV. dans l'École supérieure des arts visuels. Et voilà, j'étais rentrée donc en gravure. Et j'ai fait 6 mois de gravure, mais parallèlement à ça, j'avais pris option secondaire volume. Et j'ai vraiment tout de suite, je me suis sentie très à l'aise avec le volume. Donc je suis tout de suite passée en option principale volume. Et à cette époque-là, on faisait encore du corps humain, l'anatomie. Et on faisait donc des modelages, moulages avec de la terre. Et puis un beau jour, mon professeur me dit « Mais toi, il faudrait que tu essayes la pierre. » Du coup, on est allé dans son jardin, on est allé chercher un granit bourguignon, on a cassé ça en deux et on m'a posé ça dans l'atelier. Et pendant 6 mois, donc, j'ai fait mes premières pierres parce qu'en fait, c'était un couple à la main. Donc, comme les anciens, pointe, massette et voilà, l'éloge de la lenteur, quoi, vraiment. Mais j'ai adoré ça, j'ai adoré le fait d'avoir un bloc et d'enlever et de découvrir les choses petit à petit, des formes. Et c'est vraiment un travail méditatif, c'est un travail où on est complètement dans l'instant présent, enfin, comme souvent les travaux créatifs. Enfin voilà, la pierre, c'était un coup de foudre. Et puis, de fil en aiguille, après, évidemment, il y a des machines aujourd'hui, ce serait idiot de s'en priver. Et puis, quand on travaille des pierres quand même dures, voilà, les disqueuses, tout ça, le compresseur, c'est vraiment des outils voilà, qui nous font gagner quand même du temps et puis qui nous facilitent le travail. Et comme j'ai commencé à travailler des marbres, des calcaires durs, voilà, c'est des pierres qui ont des couleurs, qui ont une apparence qui est vraiment ouais, belle, qui est parlante. Donc j'avais vraiment envie de poli. Et pour moi, le fait de toucher la pierre, ça se touche. Quand je vais me promener en montagne, moi, je touche les parois, quoi. Comme les gens aiment toucher les arbres. Je veux dire, le toucher, on a besoin de ça. C'est une expérience différente du visuel. Et j'aime que les gens puissent toucher les pierres. Donc c'est en général la première chose que je dis aux gens dans mes expositions. Mais bien sûr, vous pouvez toucher. D'ailleurs, les gens ne me le demandent pas, ils le font naturellement, quoi.
Oui, ou contrairement à d'autres musées, il est interdit de toucher les sculptures de marbre,
oui,
les représentations humaines en marbre.
Ouais.
Et malgré tout, on y voit les traces, hein, l'érosion et la patine aussi qui apparaît. Donc, vous vous inspirez de paysages minéraux, hein, vous le disiez. L'humain, est-ce que vous le représentez ou vous essayez de représenter une dynamique de l'humain ?
L'humain, il est pour moi au cœur de la nature. Ça veut dire, ayant fait donc ces 2 ans d'anatomie aux Beaux-Arts, où j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, parce que d'abord j'ai appris, et je crois que dans l'être humain, il y a déjà toutes les proportions, les justes proportions. Mais voilà, après, mon humain à moi, il est au cœur de la pierre et il ne transparaît pas dans mes sculptures. Dans les gravures, j'ai des fois, on va dire, j'ai le souci de la grandeur de la nature que j'aimerais représenter. Et souvent, évidemment, quand on met un être humain dans un grand espace, ça donne une relation proportionnelle. Mais en fait, je n'en ai pas envie. J'ai envie que l'espace naturel prenne sa grandeur au-delà de l'être humain. Mais l'être humain, pour moi, il est de toute manière inclus dans cette dynamique. Parce que dans l'œuvre, il y a quelque chose, mais on dit que la beauté est dans le regard de celui qui regarde, quoi. Donc voilà, j'essaye que ce que je crée touche par ce qu'il y a à l'intérieur, par la force intérieure, voilà. Et voilà. Mais je ne suis pas dans une représentation de l'être humain, quoi. Ouais, du figuratif humain. Mais je pense que les gens se retrouvent dans ces formes parce que ce sont des formes... Il y a une harmonie, quoi. Pour moi, par exemple, quand j'ai terminé une sculpture, si je ne la polis pas tout de suite, bon, elle traîne dans mon atelier, dans une autre création. Et tout d'un coup, si par exemple je me dis « Oh là là, là, ça va pas, il faut que je transforme », en général, quand je dois retransformer une sculpture, je transforme par exemple le haut, mais le haut est en rapport avec le bas, le derrière, tout ça. Et ça y est, c'est reparti, quoi. L'harmonie des formes, pour moi, c'est vraiment, c'est dans le 3D, quoi. C'est ça qu'on touche dans la sculpture, hein. Il faut que quand mes mains se promènent sur l'œuvre, ça joue. Il faut que ça joue, quoi. C'est ça, quoi. Et souvent, dans mes propres créations, on me dit toujours, mais vous partez de maquettes, tout ça. Et je dis, bon, moi, je gribouille beaucoup. J'adore gribouiller. J'adore toujours dans la rythmique, dans les volumes, dans les profondeurs, dans le graphisme. Et c'est vrai que mes sculptures, des fois, partent d'un de mes dessins, d'un de mes gribouillis, comme j'appelle. Et voilà. Et si je disais, je fais une sculpture en une semaine, on va dire 3 jours, je suis mon gribouillis, et les 4 jours d'après, je suis juste avec la pierre. Parce que la pierre parle, la pierre a ses impératifs, elle a sa propre présence, et j'aime garder cette liberté-là. Alors, des fois, ça m'arrive de me planter aussi, quoi. Mais bon, quand même, avec le temps, ça va.
Au niveau de la gravure, vous tenez vous-même aussi à avoir, l'action même, votre action sur la plaque. Oui. C'est-à-dire que vous utilisez des outils, mais par exemple, vous n'utilisez pas les aléas, par exemple, des eaux-fortes.
Non, voilà. Alors, ce n'est pas l'envie qui m'en monte, mais ça viendra. Comme je suis encore une jeune graveuse, parce que j'ai que 5-6 ans d'expérience derrière moi, pour l'instant, je fais que avec la pointe sèche. Donc, j'ai mes burins, voilà, ce sont des outils spécifiques à la gravure sèche. Et j'aime aussi ce rapport de rentrer dans le métal, de rentrer dans le zinc ou dans le cuivre. Il y a aussi quelque chose de rentrer dans... Et en fait, donc, j'aime ce travail de graphisme. Là, c'est vraiment spécifique avec un graphisme. Mais après, on va dire que mes profondeurs et tout ça se font par l'ancrage. Et déjà là, entre la gravure strictement technique, manuelle, et les impressions d'encre, il y a déjà un panache énorme. Mais je ne vais certainement pas m'interdire que dans l'avenir, il y ait justement avec d'autres matières qui vont se présenter à moi. Je suis encore dans ça. Voilà. Ça va certainement évoluer. Mais présentement, c'est vraiment... Déjà, je trouve qu'il y a quelque chose qui est déjà... qui me ramène à l'essentiel aussi, étant donné que j'ai moins de possibilités. Même si c'est déjà énorme, rien que le trait et l'ancrage, c'est déjà... En fait, je dis que j'ai des gravures tirées à 20 exemplaires. On va dire que le graphisme sera toujours le même, parce que c'est là où l'encre entre dans les traits. Mais si j'estompe plus ou moins les masses, quoi... Chaque gravure est quand même unique. Je ne peux jamais faire la même chose, quoi. Voilà.
D'ailleurs, sur vos gravures, est-ce qu'on y trouve des notions de volume, c'est-à-dire avec des parties un peu assombries, et par quel mode vous les mettez en évidence?
Oui, justement, j'essaye d'avoir donc les ombres et les lumières de... toujours de mère nature, comme on va dire, hein, c'est mon professeur. Et donc, c'est vraiment, c'est très en délicatesse, quoi, parce que finalement, quand j'ai ma plaque, au départ, la plaque, on l'ancre complètement, et puis après, on essuie. Alors, on essuie plus ou moins et on laisse certaines zones plus sombres et d'autres plus claires pour faire des ombres et des lumières. Donc ça, c'est une manière. Après, dans la plaque, je découvre qu'on peut aussi creuser la plaque et faire des matières dans la plaque, même manuellement, sans apport d'acide ou de perchlorure de fer. On peut déjà, rien qu'avec des outils, avoir des creusets et des reliefs et jouer avec ça, avec les encres. Oui, c'est déjà assez énorme. J'en ai fait un petit vernissage Et j'ai eu déjà des retours de gens qui me disaient « Ah, mais on dirait que vraiment, ça sort de la feuille !» Alors là, quand j'entends ça, effectivement, évidemment, je suis très contente, heureuse, parce que je me dis « Tiens, ça a eu son impact, quoi. Oui, j'aime qu'il y ait du volume qui sorte de mes gravures. Voilà, c'est... Je crois que ça doit être à l'intérieur de moi, ça. Ouais.
Le papier pour la gravure, qu'en est-il de nos jours? Il me semblait qu'il y avait de plus en plus de difficultés à le trouver. Est-ce que vous, vous en avez un typiquement propre à votre travail?
Oui, c'est vrai que le papier, c'est... Vous mettez le doigt sur quelque chose aussi d'essentiel, parce que la gravure, c'est la plaque, l'ancrage et le papier. Et le papier est très important. Alors moi, pour l'instant, c'est vrai que j'ai trouvé un papier qui me convient bien, qui est coton, assez clair et qui rend bien mes encres, quoi. Après, j'ai pas fait tellement encore de grandes recherches sur je sais qu'il y a des papiers de riz, il y a des papiers plus fins, voilà. Je suis pas encore très au point là-dessus, mais en tout cas, j'ai fait des expérimentations, on va dire, sur 5-6 papiers de bonne qualité. Et là, je suis restée avec un papier bien coton qui me correspond, quoi. Qui reste assez blanc aussi, quoi. J'aime qu'il y ait, pour refléter la lumière, j'aime les ombres et les lumières aussi, hein. Ça, c'est nos états d'âme, hein, les ombres et les lumières, quoi. J'aime qu'on puisse plonger dans les œuvres, que ce soit les sculptures ou les gravures. J'aime que, suivant aussi, quand, par exemple, quand les gens acquièrent mes œuvres, j'espère ou j'aime qu'ils puissent chaque jour voir quelque chose de différent, les voir autrement, les ressentir autrement, que ce soit pas quelque chose de figé. Voilà, c'est aussi peut-être aussi pour ça que j'aime l'abstraction. C'est que, voilà, un jour, on va se dire, ah oui, tiens, ça, il y a quelque chose de plus... mélancolique, où il y a quelque chose de plus dynamique, où qu'il y ait des mondes qui soient perceptibles suivant nos états d'âme de chaque jour, quoi. Et bon, évidemment, les ombres et les lumières, bon, elles jouent aussi dans la sculpture et elles jouent énormément pour moi dans les gravures, quoi.
Le gaufrage est une technique aussi de gravure. Est-ce que vous l'avez pratiqué?
Non. Pour l'instant, j'ai une amie là, très proche, qui fait beaucoup de gaufrage. Je sais qu'on peut aussi faire beaucoup de choses. Mais non, parce que moi, le gaufrage va se faire avec l'acide. Et comme pour l'instant, moi, je creuse pas encore mes plaques, à part manuellement pour avoir mes traits et mes matières. Donc voilà, j'en reste à cette technique-là. Mais il faut venir voir, parce que c'est déjà très riche de possibilités. Voilà. Et ça me recentre à l'essentiel. Parce que c'est vrai que quand on commence une œuvre, il faut quand même se la poser la question. Dans notre monde où il y a beaucoup de formes, beaucoup de choses, beaucoup de... Il faut que ça parte de quelque chose d'essentiel, quoi. On va pas rajouter des formes, on va pas rajouter des papiers, on va pas rajouter des voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose d'essentiel qui soit au cœur de l'œuvre, quoi. Voilà, des élans de vie, des élans de des états d'âme, ce qu'on porte à l'intérieur de soi, quoi, le cœur de la création. Pour moi, il est vraiment ramener les gens à l'essentiel aussi. Ça veut dire, on est des êtres humains relationnels, on a besoin d'harmonie, on a besoin de grandeur, on a besoin de savoir qu'on est puissant à l'intérieur. Et ça, c'est aussi des choses qui me motive aussi dans ma création. Je veux que mes œuvres soient porteurs de ça, d'espoir, de grandeur, de puissance de vie, et qu'on a ça à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est plus essentiel que jamais, quoi. Je sais que le monde dans lequel on est terriblement difficile pour beaucoup, Mais je pense qu'il faut regarder le verre plein, quoi, le verre à demi plein, quoi, pour aller de l'avant, quoi. Voilà, pour prendre soin, pour prendre soin de la vie, prendre soin des êtres, prendre soin de nous, quoi, voilà.
Vos sculptures sont de quelle taille à peu près? Elles sont variables ou...
Oui. Alors, quand je travaille des petites pièces, en général, j'y vais, quoi. Je me laisse la liberté totale d'y aller. Donc, j'ai des petites pièces qui sont, on va dire, de 20 sur 20, quoi, voilà, qui sont des toutes petites, pour moi, des petites pièces, quoi, pour la plupart en marbre. Et puis sinon, ben ça varie. C'est vrai que j'aime bien aussi travailler en grand, mais c'est toujours après compliqué de les bouger, de les transporter, voilà. Mais j'ai travaillé aussi des grandes pièces, évidemment, d'un mètre cinquante, tout ça. C'est vrai que c'est un autre challenge, quoi. Et c'est aussi très agréable de travailler en grand. Et après, j'ai l'expérience aussi d'avoir fait des symposiums. Donc des symposiums, ce sont des... En général, ça se passe sur une semaine, 10 jours. Ce sont des communes qui organisent ça, où on fait un appel d'offres et sur un certain thème. Et on a des grandes sculptures que l'on taille en public pendant une semaine. Et alors là, oui, c'est vraiment une expérience aussi qui est assez enrichissante parce que d'abord, on est plein de sculpteurs et puis on est vraiment dans des gros volumes, quoi. Mais là, ce qui est génial dans ces cas-là, c'est qu'on n'a pas tout le problème de l'intendance derrière. Voilà. Donc après, dans l'exposition, dans l'exposition à l'ancien monastère, là, il y a des sculptures qui font à peu près 70, 80 de haut. Donc il y en a quand même quelques-unes qui sont assez plus volumineuses, quoi. Voilà. En marbre de Belgique, marbre d'Espagne, marbre de France, voilà, de Haute-Savoie, de l'Albade de Maurienne, voilà.
Le poids est une chose importante. Est-ce que pour vous, il y a une nécessité de porter un peu ses œuvres de temps en temps pour ressentir de l'inspiration ?
Leur présence. Oui, alors le poids, c'est vrai que c'est des pierres, donc forcément c'est assez lourd. Mais bon, j'essaye de les rendre légères et je crois que ça transparaît assez dans mon travail. De rendre le minéral léger, fluide et sensible. Je crois que c'est cette envie de rendre les choses légères, c'est aussi pour rejoindre l'idée de rendre les choses subtiles. C'est vrai que le règne minéral est un règne dense, mais pour moi, il est vivant, quoi. Donc, vivant, c'est-à-dire... Il se meut pas, il a cette densité, mais il y a quelque chose de vibratoire dedans, quoi. Voilà. Et c'est vrai que, bon, le poids, j'essaie justement de le faire disparaître d'une certaine manière. Après, c'est vrai que quand il faut les transporter, le poids revient très vite, quoi. Après, pour moi, c'est pas un handicap.
Et la lumière, c'est certainement aussi un apport important pour votre travail. Ouais. Vous en tenez compte et vous dirigez la lumière aussi.
Oui. Alors, quand les œuvres sont exposées, c'est vrai que c'est très, très important, la lumière. Une œuvre vit dans sa lumière parce que là, des creux, je fais des plis, oui, il y a des ondes. Les sculptures sont aussi des ondes de forme. Donc... voilà, la lumière est très importante. Elle met en valeur.
Mais
elle,
au moment elle, de la création de vos œuvres, elle a un rôle important aussi.
Non. Quand je, en fait, c'est les. Elle est intrinsèque à mon travail. Ça veut dire à partir du moment où j'entre dans une recherche formelle, parce qu'il y a des fois aussi, je fais des maquettes en terre. Hein. Ça m'arrive de tout d'un coup d'avoir une idée et puis j'ai besoin de l'expérimenter une première fois dans la terre. Parce que c'est vrai que la pierre, on avance, on recule pas, quoi. Donc quand, si on a les machines, c'est bien, mais on va vite, trop vite aussi. On peut aller vite, trop vite. Donc il y a des fois, j'ai quand même aussi certains doutes toujours. Hein, dans la création, il y a toujours des doutes, quoi. Donc des fois, je prends un certain temps pour faire ces maquettes, mais après, quand je travaille, je suis vraiment dans les ondes de forme, dans les formes, dans les plis, dans les lignes. Je sais que si ma forme, elle est bien, elle est aboutie, eh bien la lumière va jouer avec, quoi. Ça va coller ensemble, quoi. Mais et puis après, c'est vrai que les gens qui acquièrent mes œuvres, souvent, ben bon, voilà, ils ont la sensibilité de les mettre en valeur. Donc voilà, en général, elles sont près d'une source lumineuse, que ce soit naturelle ou des lampes, ou voilà, quoi.
Et puis il y a l'équilibre aussi, hein, important. D'ailleurs, vos sculptures ne sont pas dotées de socles, je pense.
Il y a des petits socles parce que je suis obligée de penser à la sécurité pendant les expositions. Donc, la plupart du temps, si elles sont sur des petits socles et d'ailleurs fixées avec des axes métalliques. Mais oui, j'aime bien. Ben, l'harmonie des formes, ça joue aussi avec l'équilibre, quoi. L'équilibre et le déséquilibre. Parce que c'est toujours un jeu comme ça. Entre des formes lisses, des formes un peu plus brutes, un peu plus travaillées, un peu plus plissées, et puis l'équilibre des masses, c'est toujours à l'intérieur de soi ce rapport de puissance et de vulnérabilité, ce rapport de légèreté et en même temps de densité. C'est vrai qu'il y a des fois, j'ai envie de choses plus, on va dire peut-être cubiques, plus de volume plus plein. Et puis il y a des fois, j'ai envie de volume plus fin qui s'envole. Et puis ça joue aussi en fonction des pierres. Par exemple, les albâtres blanches, j'aime bien souvent faire des formes fines. Des fois, j'aime bien aussi pousser ces formes jusqu'à leur extrême finesse, à la limite de la transparence. Et d'autres pierres peut-être plus noires, où j'aime peut-être plus de densité, plus de profondeur, donc des formes plus denses, plus imposantes. Voilà, c'est vraiment... Mais à chaque sculpture, c'est une nouvelle aventure, voilà.
Vous parliez d'ardoise en début d'émission aussi, c'est facile à polir aussi.
À l'ardoise, c'est très spécial parce que bon, l'ardoise, comme tout le monde le sait, elle se délite, donc elle ne supporte pas des vibrations trop fortes. Donc souvent, alors une caractéristique de l'ardoise, c'est qu'elle a un grain très très fin. Elle est très dense et elle a un grain très très fin. Et elle est très douce à travailler. Par contre, très délicate. Donc, c'est vrai que comme je travaille à la disqueuse, il faut que j'aille vraiment ultra délicatement. Et c'est vrai qu'avec les ardoises, j'ai eu beaucoup envie de faire un travail de feuilleté, reprendre le feuilleté de l'ardoise sans que ce soit son feuilleté naturel. Et puis, en même temps aussi, de les aboutir jusqu'à un poli parce qu'elle rend un noir très profond, quoi. C'est très profond. Et j'ai fait plusieurs sculptures qui s'appelaient passages, comme si c'était un passage avec des portes. Il y en a une qui s'appelait le gardien du seuil. Le gardien du seuil, c'était un peu inspiré de, des grands temples en Égypte où on passe de porte en porte jusqu'à la dernière où c'était le Saint des Saints, quoi. Alors évidemment, je n'avais pas appelé ma sculpture le Saint des Saints, ça faisait un peu trop prétentieux, je trouve. Mais c'était vraiment aussi le gardien du seuil, on avance. Et puis, c'est aussi des images par rapport à nos propres vies où on avance d'étape en étape. On a des étapes initiatiques, on ne les appelle plus comme ça, mais il y a des tournants dans nos vies et en fait... Elle se retrouve dans mes ardoises, dans le sens où il y a cette espèce de cheminement qui se fait vers l'intérieur. Voilà. Et les ardoises, pour moi, c'est vraiment un travail très spécifique. Je peux pas, j'ai pas la même liberté dans les ardoises que dans des marbres. Voilà. Mais à chaque pierre, ses possibilités, quoi.
De nos jours, la recherche ou la commande de pierres est toujours facile aussi.
Alors, de nos jours, le travail de la pierre, c'est quand même très particulier. Bon, il y a des symposiums qui sont là. C'est des commandes de communes, de villes, d'agglomérations. C'est d'ailleurs, je salue toutes les villes qui continuent à organiser ces manifestations. Et puis après, les commandes, bon, il y a des commandes publiques, mais après... Pour un sculpteur, c'est vraiment des expositions. On expose notre travail dans des lieux, dans des galeries, dans des salons. Et c'est vrai que le fait que je vienne, que je choisisse et que j'ai été acceptée donc, par l'ancien monastère de Sainte-Croix, c'est un lieu qui est porteur aussi. C'est un lieu porteur de vie. Donc c'est bien, pour moi en tout cas, c'est important qu'à certains moments donnés, mes pierres retrouvent des lieux comme ça qui sont un peu, pas forcément sacralisés, mais où il y a un temps. On se donne le temps. Il y a un espace, il y a de l'espace de découverte. C'est vrai que c'est un lieu où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de stages, beaucoup d'expérimentations. Et d'ailleurs, je pense que ça amène beaucoup de richesse. Et le fait d'avoir mis mes pierres là-bas, je suis très contente. Je trouve que c'est un lieu qui est vivant. Et je pense que c'est en résonance aussi avec ce que j'essaye d'exprimer au travers de mes créations, quoi. Ça change des lieux salons où on est quand même dans un espace plus marketing, entre guillemets. Bon, c'est sûr, un sculpteur, un peintre... Un graveur, il a besoin aussi de vendre ses œuvres. C'est un peintre, voilà, il aime montrer son travail, mais il a aussi besoin de les vendre pour en vivre. C'est important. Et je pense aussi que le rapport au public est important. Donc là, je peux préciser que je serai présente de nouveau au monastère. Peut-être pas en totalité de toutes les heures, mais de toute manière, il y a un téléphone et je suis disponible, parce que je reste dans la région, à partir du vendredi 9. Voilà.
D'ailleurs, sans vouloir connaître exactement le lieu où vous vivez, est-ce que le paysage dans lequel vous êtes vous inspire dans cette conception ?
Voilà, c'est un sujet sensible, ça. Non, mais en fait, je suis originaire de Genève, là où j'ai fait l'école d'art. Et puis, je suis très vite allée m'installer en Haute-Savoie, donc en France, là, en France voisine. Et en fait, je suis amoureuse des montagnes. Donc, depuis 15 ans, je vis avec mon mari Gérard Loup, artiste peintre dans le Berry. Artiste peintre et sculpteur. Et nous vivons dans un magnifique lieu. C'est un ancien corps de ferme. On est vraiment très, très bien installé. On a beaucoup d'espace. Ceci dit, le paysage autour est un peu plane à mon goût. Mais peu importe. Voilà, nous gardons un pied en Haute-Savoie. Et puis, quand on est connecté avec les montagnes, je crois qu'on l'est pour la vie, quoi. Mais le grand avantage qu'on a d'être là où on est, c'est qu'on a l'espace de créer. Et on a le silence aussi. Je pense que pour la création, l'espace, le silence, le temps aussi, ça, c'est toutes des notions Aujourd'hui, je pense que la vraie richesse aussi, c'est ça. Le temps, avoir le temps de créer, avoir l'espace et le silence aussi. Le silence, pour moi, le silence est une notion indispensable à la création. Il y a un silence qu'on fait à l'extérieur et il y a un silence qu'on essaye d'avoir à l'intérieur de soi. Je dis qu'on essaye parce qu'on est souvent assez bruyant avec toutes nos pensées. Alors, c'est bien aussi d'avoir des arrêts, des pauses, des sensations et d'avoir des lieux comme ça, c'est une grande richesse.
La verticalité du Salève vous a influencé assez vite.
La verticalité, oui, du Salève et de toutes les belles montagnes qu'il y a par là-bas, quoi. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a emmené très vite dans la montagne. Je le remercie, je le salue d'ailleurs. Et du coup, ça m'a donné vraiment cet ancrage dans la nature. Et le fait de monter, d'aller me promener, de se promener, d'être... C'est vrai, quand on grimpe en montagne, des fois, il y en a qui nous disent « Mais vous êtes cinglés, là, vous montez, vous allez peiner des heures et des heures, dégouliner de sueur, et tout ça pour monter, puis pour redescendre. » Franchement, mais en fait, c'est vraiment le cheminement, quoi. C'est le cheminement, c'est d'être... Tous ces moments qu'on se donne à soi. Alors après, on n'est pas obligé de monter en haut d'une montagne. On peut très bien rester au bord de la rivière. Là, vous avez la Drôme, c'est magnifique d'être au bord de la Drôme, de juste regarder l'eau qui coule, le vent dans les arbres. Voilà, la présence des choses, la présence de la vie. Voilà, ça aussi, ça nous ancre à l'intérieur de soi. Et je pense que c'est un moteur de création. Et cette verticalité, elle est à l'intérieur de soi. Pas forcément, on n'en a pas forcément besoin à l'extérieur. Elle est à l'intérieur de soi. On est des êtres debout, quoi. On est des branchies tertielles, quoi. Et ça, c'est un moteur de vie. C'est un moteur de création.
Gérard, vous auriez un mot à dire sur le travail d'Isabelle ?
Oui, je suis toujours un peu émerveillé de la manière dont elle travaille, surtout quand vous parliez de la pesanteur des blocs de pierre et les rendre aussi légères, aussi volatiles. Il y a une subtilité à travers ce travail que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que faire de la légèreté avec des masses aussi forte, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, je veux dire, dans son travail, j'aime beaucoup, c'est toute la féminité qui transpire, la légèreté, la subtilité et la douceur qui est vraiment caractéristique de son travail, ça c'est clair. Et puis, lorsqu'elle, je l'entendais tout à l'heure parler de ses gravures, en fait, pour moi, c'est un mariage qui va très bien ensemble, parce qu'en fait, on sent déjà dans son travail de graveur, graveuse, ou comment, graveur, on sent cette dynamique, cette rythmique, cette écriture qui est là dans ses pierres. Donc voilà, moi je ne peux que l'encourager parce que je trouve qu'elle a un potentiel énorme et c'est pas par hasard qu'elle a décroché des grands prix cette année, l'année dernière, et qu'elle commence à être reconnue. C'est vraiment très sympathique de voir la résonance et l'écho que son travail peut avoir. Ça c'est vraiment sympathique, ouais.
On va bientôt terminer cette émission. Je suppose que vos œuvres sont visibles sur un site internet.
Absolument. Si on tape mon nom, Isabelle Milleret.fr, on tombe sur mon site. Donc là, il y a à peu près la totalité de mes œuvres. En sculpture, en gravure, elles n'y sont pas encore. Vous allez être obligés de venir à l'ancien monastère si vous êtes dans la région. Ce serait un grand plaisir de vous accueillir. Et voilà, j'espère que ça vous donne envie de venir voir et de venir toucher les pierres et de venir voir les gravures. Et je remercie la radio d'Iwa pour son investissement, sa collaboration.
D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait téléphoner aussi pour prendre un rendez-vous.
Oui.
Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? C'est celui de l'ancien monastère, je suppose ?
Alors, il y a le numéro de l'ancien monastère. Et si on veut m'appeler directement pour le temps de l'exposition, je peux donner mon numéro. Donc, je suis au 06 73 83 00 68. Oui, oui, si jamais je ne réponds pas, parce que je n'ai pas forcément toujours le téléphone dans la main, n'hésitez pas à me laisser un message, je vous rappelle et on peut fixer un rendez-vous avec grand plaisir.
Isabelle et Gérard, je vous remercie donc tous deux d'être venus nous parler de cette exposition à l'ancien monastère de Sainte-Croix qui se déroulera jusqu'au 22 août avec une ouverture de 10 à 19h. Et puis si vous voulez rencontrer Isabelle lors de cette exposition, ça pourra se faire à partir du vendredi 9.
Voilà.
Eh bien, je vous remercie tous les deux et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.